Dans ce journal, on vous parle de ces actions qui se poursuivent avec Octobre Rose et puis des postes sont vacants à la tête de différentes institutions et il y a des candidats, on en parle et on revient également sur ce qui s'est passé ce week-end. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
Octobre Rose se poursuit.
Oui, avec ce jeudi, une soirée d'information sur le cancer et la reconstruction mammaire. Un événement qui intervient après la journée de prévention organisée samedi dernier au Parc Paufey. Une journée qui poursuivait un objectif plus global que la thématique du cancer du sein, puisqu'elle réunissait différentes associations œuvrant pour la santé de la femme en général. Écoutez les précisions de Teanini Tematao-Toa, directrice de l'Institut du cancer de Polynésie.
Leur santé, c'est important de prendre soin de soi. Même pour les règles, par exemple, malheureusement, il y a des jeunes filles qui sont obligées de mettre du papier toilette pour se protéger. Faut aussi qu'on puisse les aider à se prendre mieux en charge. Et après, plus tard, à partir de 50 ans, au niveau du Titi, qu'elles puissent aller faire leur suivi et leur mammographie. Donc c'est une idée, un concept global autour de la santé de la femme.
La santé de la femme qui, selon Hermine Tehey, présidente de l'UFO, doit être synonyme d'un cercle vertueux qui commence dès les premières règles. L'Union des femmes francophones océaniennes, fière du succès de son plan de lutte contre la précarité menstruelle, un plan qui concernait à ses débuts le collège Henri Hiro à Faha et celui de Papara, proposant de mettre à disposition des élèves, des kits menstruels gratuits comportant deux serviettes jetables. Depuis le début de l'année, le concept s'est élargi, passant de 2 à 22 établissements de Tahiti et des îles. Selon la présidente, ce projet répond à un réel besoin.
Elles utilisent et en plus elles prennent soin. L'infirmière est là pour gérer, mais les filles qui sont là, elles sont vraiment attentionnées et elles font attention à ne pas gaspiller et demander aux autres de ne pas prendre pour amener dans la classe et mettre de côté. Non, il faut laisser dans la machine. Quand ils ont besoin, ils viennent chercher. On utilise ce dont on a besoin et le reste, on laisse pour la prochaine fois.
Et au total, ce sont près de 20 000 kits qui ont été mis à disposition des établissements pour l'année scolaire. L'objectif étant à terme de pouvoir agir sur le pouvoir d'achat en faisant passer les serviettes en PPN, mais aussi de les rendre totalement gratuites pour le public précaire.
Et puis bientôt du changement du côté de l'Institut Louis Malardet.
L'Institut Louis Malardet, anciennement dirigé par Hervé Varré, devenu directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, aura bientôt à sa tête Maïre Sabre, directrice du contentieux et des engagements bancaires à la Socredo. Alors depuis le 3 mai dernier, c'était Emma Richmond qui assure la direction de l'ILM par intérim. Maïre Sabre avait posé sa candidature au poste de directeur de la Caisse de prévoyance sociale. Elle faisait partie des 3 candidats shortlistés et le choix s'est finalement porté sur Romina Ma. Mais c'est suite à ce processus que le pays lui aurait proposé de prendre la tête de l'ILM. Pour ce faire, Maïre Sabre prendra une disponibilité de la Socredo, réservoir inépuisable de cadres du pays. L'ILM doit réunir son conseil d'administration pour entériner cette nomination qui sera ensuite confirmé par un arrêté en Conseil des ministres.
Et du côté de l'aviation civile, c'est un ancien député qui est candidat à la direction.
Oui, c'est une candidature atypique. Un ancien député de Gironde se propose pour la direction de l'aviation civile, poste non pourvu depuis que Georges Puchon a été démis de ses fonctions en juin dernier. Titulaire d'une maîtrise de droit et sciences politiques, Benoît Simian était cadre en ressources humaines à la SNCF. En 2014, il devient maire, puis député en 2017. Durant son mandat à l'Assemblée nationale, il est rapporteur du budget des transports et des infrastructures au sein de la Commission des Finances. Et dans ce cadre, il mène en 2019 une mission parlementaire de diagnostic du transport aérien en Polynésie. Benoît Simian, qui a également un attachement personnel aux Fénois, puisque ses grands-parents ont vécu à Touboué, il leur rendait d'ailleurs visite durant sa jeunesse. En juin 2022, notons qu'il avait été condamné à 6 mois de sursis et 5 000 euros d'amende pour harcèlement moral envers son ex-épouse après leur séparation. Une affaire qui avait alors attiré l'attention des médias, coûté aux députés sa réélection en Gironde et son adhésion au parti présidentiel. Depuis, le divorce a été résolu à l'amiable, assure-t-il. Alors sa carrière politique est aujourd'hui terminée, mais il se verrait donc bien directeur de l'aviation civile, pour laquelle Benoît Simian identifie 2 priorités.
J'ai beaucoup travaillé sur le sujet des aérodromes, de l'aérien en Polynésie française. J'espère pouvoir aider demain le pays à construire le ciel polynésien avec 2 priorités. Une qui me tient à cœur, c'est la continuité territoriale et enfin la transition écologique. L'aviation civile, c'est quand même une mission de sécurité, de sûreté et puis un travail d'investissement. Il y a un travail à mener au quotidien, à l'opérationnel avec les communes, puisqu'il y a donc 46 aérodromes gérés par le pays.
Benoît Simion au micro de Caroline Perdry, l'ancien député qui pense également que les bonnes relations qu'il a construites avec la Direction Générale de l'Aviation Civile et le service d'État en Polynésie, ainsi qu'avec les ministères des Armées et des Outre-mer, eh bien tout ça serait un atout à ce poste, tout comme son expérience du dialogue social à la SNCF. Toutefois, le rejet des expatriés métropolitains et la volonté affichée du Tavigny d'écarter les personnes ayant eu des démêlés avec la justice restent d'importants obstacles à cette candidature. Son interview complète est à retrouver sur notre site internet.
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Teahupo.
Ils étaient même 700 selon l'association Vaara au Teahupo à participer à une marche entre la mairie et le PK0 pour dire non au projet de nouvelle tour des juges en aluminium qui sera construite pour les Jeux Olympiques de surf 2024. Une tour qui, en plus de nécessiter un budget important, environ 547 millions, va, selon l'association, modifier l'équilibre de l'environnement. Pour la population, il faut sauvegarder le côté naturel du spot, mais il ne s'agit pas de remettre en cause l'organisation des Jeux Olympiques. Les membres souhaiteraient que la traditionnelle tour en bois qui est utilisée jusqu'à présent lors des compétitions soit validée par le Comité Olympique 2024 qui se doit, lui, de respecter un cahier des charges bien précis. Le message de l'association est clair, il faut préserver le lagon. Astrid Drollet, vice-présidente de Vaara au Teahupo.
On est très contents parce que voilà, on a montré qu'on est, c'est nous, quoi, on est un. Et donc tout se passe dans la paix, dans la joie, en musique. Ben, avec les réseaux sociaux, comme ça va vite, hein, on s'attendait à avoir du monde, ouais. Mais peut-être pas autant. Hein. Donc ça, c'est la preuve que les gens sont concernés par l'environnement. Parce que ça aussi, on peut dire, c'est le garde-manger aussi des gens de la population de Teahupo. Et donc, il ne faut pas y toucher.
Et des réunions d'information devraient se poursuivre pour répondre aux interrogations de la population qui s'inquiète également des aménagements sur la marina.
Et on revient aussi sur cet hommage du monde de l'éducation.
Oui, hier matin, les représentants de la Fédération UNSA Éducation ont déposé une gerbe avenue Pouvanaopa en la mémoire de Samuel Paty et de Dominique Bernard, deux enseignants assassinés en 3 ans d'intervalle par des terroristes islamistes, alors que la France est actuellement en urgence attentat. Une cérémonie confidentielle qui s'est déroulée en présence d'un représentant de l'État. Et ce lundi, une minute de silence et un temps d'échange a été observé entre les élèves du Fénois et leurs enseignants.
Les sabatons volés à Mamao.
Oui, samedi matin, 120 personnes ont tenté leur chance sur le championnat de lancer de savates. Cette manifestation proposait aux curieux d'essayer de faire valser le modèle de savate officiel de la compétition le plus loin possible. Les règles sont simples, les participants disposaient de 3 essais pour relever le challenge. Chez les femmes, c'est Jessica Perrichon qui a fait la meilleure performance avec une savate lancée à 24 mètres. Le record revient à un homme, Kanou Cholet, qui a lancé à 38 mètres.
J'aime beaucoup ce genre d'événement assez original, hein, qui représente bien en plus le Fénois avec les savates qui sont bien implantées à Tahiti. Et voilà, c'est la première fois que je participe et voilà, je suis content d'être ici. Je ne me suis pas du tout entraîné, mais voilà, je me suis dit, on va tenter le coup et voilà, 38 mètres, je suis content de moi. La technique, là, je dirais, c'est surtout l'angle de la savate, comment elle passe. Si elle part bien comme il faut, là, elle peut aller plus loin. Puisque si elle part à plat avec le vent, ça, on va dire que ça la freine un peu plus.
Et c'était la 2e édition de cet événement que l'organisation promet de pérenniser, voire de l'exporter dans les îles.
Et quelques résultats pour terminer.
Des résultats sportifs avec en va 33 équipages qui ont pris le départ samedi de la Hekenoa Race, un marathon V6, synonyme pour de nombreuses formations de dernière préparation avant la grande Hawaii Kinui, prévue du 1er au 4 novembre. C'est l'équipe A de Inaraorea qui a remporté la course masculine sur 30 km, tandis que les rameuses de Hiilani ont dominé la course féminine 21 km. Hier, c'est en triathlon qu'on suivait des résultats. Benjamin Zorniotti a remporté le championnat de Polynésie devant Jean-Marc Rimaud et Naineo Tanetoa. Chez les dames, succès de Anaïs Horus Catalan. Enfin, en surf, la coupe de Tahiti Open a été remportée par Steven Pearson chez les hommes et Kohei Fiero chez les dames. Là aussi, c'était ce week-end. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de les avoir suivis. Retour de l'actualité à 16h avec le flash de la rédaction.
Merci beaucoup Valdemar.
Coupe du monde de rugby 2023. On refait les matchs avec la Fédération Polynésienne de rugby.
Voilà, on va parler de choses qui fâchent, je vous le dis, avec bien sûr ces matchs qui ont eu lieu ce week-end, les résultats, on va en parler avec Gilles Laffy, directeur technique de la Fédération Polynésienne de rugby. Yorana Gilles.
Hey Yolana, Kevin, Yolana, tout le monde.
Alors, réveil compliqué hein, ce lundi matin après cette défaite malheureuse de un seul point de l'équipe de France face à l'Afrique du Sud, un match serré tout de même. On va y revenir après, bien sûr. D'abord, on va se diriger vers les matchs qui avaient lieu ce samedi avec notamment, qu'est-ce qu'on avait le droit là ce samedi ?
C'était Pays de Galles, Argentine.
Exactement, voilà. Pays de Galles, Argentine, 17 à 29, l'Argentine qui passe devant.
Ben oui, oui, le Pays de Galles tombe de haut. Hein. Les Pumas ont fait la différence, notamment seconde période. Et c'est le premier qui a été qualifié pour les demi-finales. Bravo à eux. Ils ont, ils n'étaient pas franchement favoris. Ils ont usé l'adversaire jusqu'à une interception à la 78e. Une dernière pénalité qui leur ouvre les portes des demi-finales. Les Gallois tombent de haut, comme j'ai dit, donc voilà.
Bah oui, surtout qu'en plus, ils menaient à la mi-temps 10 à 6 quand même. Alors, c'est pas un score large, mais ils étaient devant.
Oui, ouais, tout à fait. C'est surtout en seconde période, les Pumas, ils ont la grinta, ils ont pu mettre en place leur jeu, et tant mieux pour eux. Et il s'avère que ils ont fait le nécessaire pour se qualifier, et puis donc il faut les féliciter. Première équipe de l'hémisphère sud qualifiée. Au détriment de l'hémisphère nord.
Eh oui, deuxième quart de finale, c'était l'Irlande contre la Nouvelle-Zélande. Là aussi, un match haut en couleur, avec bien sûr un score très serré à la mi-temps, 17 à 18 à l'avantage de la Nouvelle-Zélande. Fin du match, 24 à 28, toujours à l'avantage de la Nouvelle-Zélande qui du coup se qualifie en demi-finale de cette Coupe du Monde de rugby à 15-2023.
Ah ouais, mais c'est un match d'anthologie, hein. C'est un match, il y a vraiment un bras de fer. On a vécu un grand moment de l'histoire de la Coupe du Monde, on peut le dire. Et les All Blacks, qui n'ont pas forcément les initiés, certains ont douté, mais non, ils sont toujours là. Ils ont une défense incroyable. Ils ont réussi à contenir les assauts des Irlandais jusqu'à la dernière minute. Hein. Il y a eu un temps de jeu effectif incroyable, plus de 42 minutes de jeu effectif. Ça a duré 83 minutes. Et il y a une possession de plus de 5 minutes des Irlandais, et les All Blacks ont tenu sur leur ligne, et grâce à cette défense, et ben ils en sont, et puis aussi ils ont été beaucoup plus réalistes et dominateurs aussi en mêlée, hein. Donc félicitations All Blacks, on risque de les retrouver